vous suit.
Voici les titres du journal.
Une Chablaisienne versera une partie de son chiffre d'affaires du mois de mars à Essendo, une association qui milite pour que l'endométriose soit mieux reconnue, entre autres. Le carnaval de Monté prendra fin demain soir, il y a encore une dizaine de jours. Personne n'aurait osé imaginer que cette 149e édition friserait la normale, pas même les organisateurs. Il ne faut pas tailler et élaguer les arbustes chaque année entre le 15 mars et le 31 juillet. On vous expliquera pourquoi dans ce journal. Le surveillant des prix de la Confédération entend forcer cantons et communes à baisser leurs tarifs sur les réseaux d'acheminement du gaz et de l'électricité. Il a aussi compilé une série de dossiers dont il entend s'occuper en cette année 2022. Du sport aussi dans cette édition, notamment les ambitions et les doutes de Cran Montana pour son avenir dans le cirque blanc. La place de la station Valaisanne sur le circuit de Coupe du Monde ne fait aucun doute. Reste à convaincre la FIS dans le dossier de la candidature pour les Mondiaux.
Du soleil aujourd'hui et demain, c'est le programme météo qu'on va détailler à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Yves Terrani. Bonjour Yves.
Bonjour. Un randonneur italien de 47 ans a perdu la vie samedi matin sur les hauts de Zermatt en Valais, a-t-on appris ce matin. Il cheminait sur le glacier du Théodule à 3631 mètres lorsque la couverture neigeuse s'est effondrée sous ses pieds, le faisant chuter sur environ 20 mètres dans une crevasse. Le malheureux et sa compagne évoluaient hors des pistes de ski équipées de crampons, a indiqué la police cantonale valaisanne dans un communiqué publié tout à l'heure. Alerté par la randonneuse, les secours n'ont pu que constater le décès de l'homme, le ministère public a ouvert une instruction.
Le mois de mars est celui de l'endométriose, cette maladie qui touche les organes reproducteurs féminins.
À cette occasion, les pâtes à tartiner artisanales Patarox se pareront d'un ruban jaune et d'une partie du résultat des ventes sera versée à l'association Essendo. La Chablaisienne Roxane Sonner, fondatrice de Patarox et elle-même touchée par la maladie, souhaite attirer l'attention sur ce mal puisque les solutions manquent encore aujourd'hui. Roxane Sonner.
On a des opérations qui sont faites pour, mais des fois ça ne marche pas. Comme moi, ça n'a pas marché 6 mois après, les mêmes douleurs. Donc on essaye, mais il n'y a pas de vrais médicaments à part les antidouleurs, enfin des choses un peu naturelles, modifier son mode d'alimentation, mais ça reste des choses voilà, qui marchent ou pas. Et c'est pas une solution toute notre vie de se priver de manger telle et telle chose pour ne pas avoir mal et on n'est pas guéri au final. Donc il faut que ça avance et que la Suisse s'ouvre un peu, je pense. Et aussi que l'AI rentre aussi en compte pour certaines choses, que ça prenne en charge même pour une rente ou bosser à 50% ou un peu moins, ou une reconversion professionnelle si on n'arrive plus à faire notre propre métier de base.
Un manque de reconnaissance pour une maladie pourtant grave, comme l'explique la présidente de Essendo, Fabny Schaffer.
C'est une maladie qui a été décrite pour la première fois en 1860 dans les écrits scientifiques et médicaux. Et puis, parce qu'elle touche les règles et l'intimité, probablement que cette maladie a été mise de côté. Et puis, c'est un petit peu dans les mœurs de la société que c'est normal que la femme souffre. Voilà, elle souffre pendant l'accouchement. Donc, ça serait normal de souffrir pendant les règles. Dans l'endométriose, ce n'est pas défini comme une maladie grave, mais ça reste en fait défini comme un cancer bénin. Donc, ce ne sont pas de cellules malignes. On ne peut pas mourir de l'endométriose, mais on peut tout à fait mourir des conséquences d'une endométriose grave. Il y a des femmes qui perdent un rein à cause d'endométriose, à qui on doit enlever un bout d'intestin, ou chez qui ça monte jusque dans les poumons. Donc bien sûr, ça peut être grave.
Environ 10 à 15% des femmes sont touchées d'endométriose, souvent diagnostiquées tardivement. Plus d'informations sur s-endo.ch ou sur lespatarox, lespatarox.ch. C'était un sujet signé Valérie Blom.
Le 149e carnaval de Monté prendra fin demain soir dans les bars de la ville.
Et grand cortège, 6 jours de fête, aucun masque, si ce n'est les déguisements. Personne n'aurait pu prédire que la manifestation se serait tenue sous cette forme il y a 10 jours à peine. Il faut dire que ces derniers mois, les organisateurs ont souvent dû s'adapter. Écoutez tour à tour Christophe Boissard, membre du comité du carnaval, puis Charlie Vernat, président de ce même comité.
C'est à peu près 3 fois plus de travail parce qu'on a dû préparer des concepts, changer les concepts avec les annonces qui ont été faites, avec les quarantaines qui ont été mises en place et tout ça. Donc on a organisé à peu près 3 carnavals en une année.
Donc des variantes, après des corrections des variantes et puis pour arriver, pour finir avec un dossier qui avait été accepté, donc avec les contraintes qu'il y avait il y a quelques semaines en arrière. Et puis bah, maintenant, heureusement, tout est ouvert, donc on a pu supprimer justement toutes ces contraintes.
Voilà, des variantes et puis des corrections de variantes, on aura bien compris. Christophe Boissard et Charlie Vernat, interrogés par Thierry Nicolet, il n'aura manqué cette année que la grande cantine installée sur la place centrale. En croire le comité, il aurait suffi de seulement quelques jours de préparation en plus pour pouvoir l'installer.
Du 15 mars au 31 juillet, je ne touche pas à ma haie.
Et cet appel, c'est celui que lancent les biologistes et notamment Jérémy Savio, chargé d'affaires de Pro Nature à Valais. Ce dernier nous dit pourquoi il faut procéder ainsi.
Parce que c'est la période la plus critique pour la reproduction, en particulier des oiseaux. Il y a de nombreuses espèces comme le merle, le pinson, etc. qui font leur nid dans les haies des jardins, donc c'est mieux de réserver la taille des haies au mois d'hiver.
Il s'agit donc là d'un conseil. Il n'existe pas en effet de législation contraignante en la matière. Alors, en faudrait-il une ? On retrouve Jérémy Savio.
Dans l'idéal, oui, je pense que ce serait intéressant que les communes, via leurs règlements communaux des constructions et des zones, légifèrent un petit peu plus sévèrement par rapport à l'entretien des milieux naturels. Ça doit rester quand même une volonté, finalement, de la part de la population, de la part des citoyens. Le but, c'est de les sensibiliser. Mais dans certains cas, comme l'abattage de grands arbres, on estime qu'il faudrait effectivement être un petit peu plus attentif à ce que les particuliers font.
Vous dites sensibiliser les gens. Ils comprennent quand on leur explique ?
Oui, alors j'ai vraiment l'impression que de plus en plus de citoyens sont très sensibles à cette question-là, pas uniquement pour la faune, mais pour leur propre qualité de vie. On se rend compte que dans un milieu qui s'urbanise, c'est quand même beaucoup plus sympathique d'avoir autour de chez soi des papillons, des fleurs, plutôt qu'un gazon vert fluo rempli de Roundup, qui est finalement très stérile. Donc les gens sont sensibles à ça, ils font de plus en plus la démarche de se renseigner auprès d'associations comme ProNatura ou auprès de leur commune pour savoir quelles sont les mesures qu'ils peuvent mettre en place pour justement accueillir plus de biodiversité autour de chez eux.
Mais l'on ajoutera que selon Jérémy Savio, il vaut mieux justement planter autour de sa propriété quand c'est possible des variétés locales telles qu'argousier ou sureau plutôt que des thuyas. La petite faune apprécie beaucoup ce type d'ornement qui protège finalement aussi bien des regards du voisinage. Les gardes-faunes du canton du Valais ont abattu fin janvier un loup au pelage atypique, presque noir. Le canton, l'Office fédéral de l'environnement et le centre de monitoring des grands prédateurs, le CORA, ont suspecté qu'il s'agissait d'un individu hybride résultant du croisement d'un loup et d'un chien. Les analyses génétiques de l'Université de Lausanne ainsi que celles du Centre de génétique des animaux sauvages de Gelnhausen ont démontré finalement que ce loup issu de la population franco-italienne était génétiquement pur et que son génome n'a subi aucun croisement avec un chien au cours des 4 dernières générations. Il n'était donc pas un animal hybride. Selon un communiqué du canton du Valais, ce résultat montre que les caractéristiques externes dans les populations de loups d'origine italienne peuvent varier dans une plus large mesure qu'on ne le pensait. Les injections de Botox ou d'acide hyaluronique à des fins esthétiques doivent être effectuées par des médecins. Le canton de Vaud lance une mise en garde. Il rappelle que les salons de beauté ne sont en aucun cas habilités à procéder à ce type d'intervention. Cette pratique est illégale et peut s'avérer dangereuse pour la santé. Une procédure pénale est d'ailleurs en cours contre un centre de la région lausannoise, lequel utilisait des produits et des dispositifs médicaux sans posséder les qualifications professionnelles requises. L'économie suisse continue de se normaliser malgré des signes de faiblesse dans l'industrie manufacturière et la construction. Selon le baromètre conjoncturel du COF, le centre de recherche conjoncturelle de l'École Polytechnique Fédérale de Zurich, publié aujourd'hui. Les récentes données ne prennent toutefois pas en compte les derniers développements du conflit en Ukraine. Ainsi, ce baromètre a baissé de 2,2 points en février, passant à 105 points. Les indicateurs de l'industrie manufacturière sont les premiers responsables de ce recul, suivi par ceux du secteur financier. D'après le COF toujours, les signaux concernant les exportations sont un peu plus favorables qu'auparavant, sous réserve de l'évolution de la situation dans l'Est de l'Europe.
Le surveillant des prix en Suisse veut forcer cantons et communes à baisser leurs tarifs sur les réseaux d'acheminement du gaz et de l'électricité.
Stéphane Meyerhans dressait ce lundi matin le bilan 2021 des dossiers traités et ceux qui vont continuer à l'occuper durant cette année. Tarifs hospitaliers, prix des médicaments génériques disproportionnés, prix des tests Covid-19 antigéniques trop élevés et avec la guerre russe en Ukraine et ses répercussions multiples, le prix final du gaz pour les consommateurs suisses sera encore plus sous la loupe de Monsieur Prix. Stéphane Meyerhans.
Ce matin, on a pu voir qu'à la bourse d'Amsterdam, le prix du gaz a augmenté de plus de 30%, donc ça aura des effets par ricochet sur les consommateurs. Et là, je vais évidemment veiller à ce que, par exemple, les communes en Suisse ne demandent pas trop pour l'utilisation du réseau pour le transport du gaz. gaz en Suisse. D'un autre côté, c'est aussi l'électricité. Là, je pense que c'est le Conseil fédéral qui devrait adapter les intérêts qui aujourd'hui sont tolérés pour l'utilisation du réseau, beaucoup trop élevés. Je crois là, il faut faire un effort de tous les côtés pour alléger la facture des consommateurs finaux. Je crois qu'il faut réaliser, et peut-être pas tout le monde le sait, que normalement, la plus grande partie de la facture, c'est l'utilisation du réseau et pas vraiment l'énergie, que ce soit l'électricité ou le gaz. Donc là, on a un levier qui est quand même important, notamment quand les villes et les communes réalisent que là, ils doivent aussi faire un effort en faveur des consommateurs et des consommatrices.
C'était un sujet réalisé par notre correspondant au Palais fédéral, Frédéric Nejad de Toulamy.
Et l'on aborde, Yves, une large page consacrée à l'Ukraine.
Et où l'on s'en doute, la situation évolue d'heure en heure. Ainsi, l'ONU a affirmé ce matin avoir enregistré 102 civils tués, dont 7 enfants et 304 blessés depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Elle a toutefois averti que les chiffres réels sont considérablement plus élevés. L'ONU, dont le secrétaire général Antonio Guterres, estime que la Russie n'est pas un État fort parce qu'elle a peur des droits humains. Par vidéo, aujourd'hui, au début du Conseil des droits de l'homme à Genève, il s'en est pris aux autocrates. Dans le même temps, la délégation ukrainienne est arrivée ce matin sur le site de négociation avec la Russie pour exiger un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes russes. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a exhorté l'Union européenne à intégrer sans délai son pays, a appelé ce matin toujours les soldats russes ayant envahi son pays à déposer les armes dans une vidéo diffusée juste avant les négociations avec Moscou. Moscou qui affirme vouloir trouver un accord avec Kiev lors de ses pourparlers.
L'armée russe, quant à elle, a assuré que les civils pouvaient quitter librement Kiev, la capitale de l'Ukraine.
Tout en accusant en même temps le pouvoir ukrainien de l'utiliser comme bouclier humain au cinquième jour de l'invasion du pays. On précisera aussi en marge du balai diplomatique autour de ce conflit que le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, a assuré ce matin qu'il n'y avait pas de changement significatif dans la stratégie russe en matière de dissuasion nucléaire, malgré la menace brandie par Vladimir Poutine. Vous dire encore que le Conseil des droits de l'homme, qui a entamé aujourd'hui 5 semaine de travaux à Genève, se réunira dans la semaine pour un débat urgent sur l'Ukraine. Une décision approuvée par 29 voix contre 5 oppositions, dont celle de la Chine et 13 abstentions. Quoi qu'il en soit, des réunions se poursuivent autour de ce conflit. Le président français Emmanuel Macron va ainsi recevoir tout à l'heure à déjeuner à l'Elysée le chancelier allemand Olaf Scholz et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen pour un dîner de travail avec les représentants des industriels européens. Et cela afin de discuter des enjeux de souveraineté économique européenne, y compris au vu des événements en Ukraine. Emmanuel Macron participera ensuite à une visioconférence avec les dirigeants américains, canadiens, allemands, italiens, japonais, polonais et roumains, ainsi qu'avec des représentants de l'Union européenne et de l'OTAN, afin de poursuivre l'étroite coordination entre alliés et partenaires européens sur ce conflit en Ukraine.
Et côté Suisse, Yves?
Eh bien, la position de notre pays à l'égard de la Russie irrite au sein de l'Union européenne, a indiqué aujourd'hui à Bruxelles un diplomate. Invoquer la neutralité lorsque le droit international n'est pas respecté ne passe pas. Selon ce diplomate, l'Union européenne craint que la Suisse ne se rallie pas entièrement aux sanctions des 27 contre la Russie et devienne ainsi un refuge pour l'argent russe. Il ajoute que l'Union s'efforce de convaincre la Suisse de s'associer pleinement à ces sanctions. Tout autre chose maintenant, des dizaines de milliers d'Australiens ont été priés d'évacuer leur maison tôt ce matin. Les autorités se sont montrées inquiètes face aux pluies torrentielles qui ont provoqué des inondations records dans l'est du pays. Certains habitants ont dû se réfugier sur le toit de leur habitation ce matin. Le bilan humain était de 8 morts. L'agence météorologique australienne a prévenu que d'autres puissants orages et des pluies intenses entraîneraient des crues soudaines potentiellement mortelles dans une grande partie de la région côtière centrale du Pacifique. Et on termine ce journal avec du sport. En ski alpin, une nouvelle édition réussie pour Crans-Montana sur le front de la Coupe du Monde féminine. Les coureuses, principales bénéficiaires, ont adressé des mots élogieux au comité d'organisation. Ce bilan positif ne fait pas dévier la station de son objectif principal à moyen terme, à savoir obtenir les mondiaux en 2027. Après avoir sagement attendu leur tour lors de la précédente candidature pour 2025, les porteurs du projet pensent que cette fois sera la bonne, mais ils n'ont pas toutes les cartes entre leurs mains, comme le confirme le boss des courses du Haut-Plateau, Marius Robire.
Oui, inévitablement, vous savez, lorsque vous êtes deux en votation, trois, quatre, personne n'est sûr. Il n'y a que les 18 personnes en face qui sont capables de dire. Mais moi, ce que je peux dire aujourd'hui, on a vu les 18 personnes. Si toutes les personnes qui nous ont touché la main, qu'on a touché la main, nous disent on vote pour Crans-Montana, on sera élu sans aucun problème. Maintenant, On sait ce que c'est que la votation. On savait, lors des Jeux Olympiques de 2006 aussi, on croyait les avoir et puis on ne les a pas eus. Donc il faut faire avec, mais on va continuer à travailler encore jusqu'au 26 mai.
Le 26 mai, date très très importante. Est-ce que vous vous projetez déjà, Marius Robire? Est-ce que vous vous dites, si on ne l'a pas cette fois, on laisse tomber? C'est beaucoup d'énergie dépensée pour qu'on ne la fasse à l'envers, entre guillemets.
Ah, c'est pas faux, votre raisonnement. En tout cas, je laisse retomber un petit peu maintenant la tension. Moi, je veux rencontrer les politiques, je veux rencontrer le canton, les communes, rencontrer les remontées mécaniques et analyser les deux variantes, c'est-à-dire variante 1, si on les a, on ne discute même pas parce que tout doit être en place, et puis variante 2, si on ne les a pas, qu'est-ce qu'on fait? Parce que pour 2029, il y a peut-être les Américains qui vont venir, il y a des donnes qui vont venir, puis c'est chaque fois quand même 400 000 francs que l'on doit mettre pour avoir la candidature, donc il faut vraiment qu'on réfléchisse.
Le soutien, vous le sentez toujours intact jusqu'à nouvel ordre de la part des différents partenaires?
Alors, très honnêtement, le soutien, j'ai une chance extraordinaire parce que tout ce qu'on a demandé aux communes, aux cantons, à la Confédération, on a obtenu jusqu'à maintenant, c'est vraiment super. Donc, j'espère que ça continuera comme ça.
Des propos recueillis par nos confrères de Rhône FM.
En football, le spectre de la Challenge League s'intensifie du côté du stade de la Tuyère.
Après une 15e défaite cette saison concédée hier face à Lucerne, le Lausanne Sport, dernier du championnat suisse, pointe à 6 longueurs de son adversaire du jour. Denis, langue de bois, obligation de positiver, Vincent Steinmann réagissait à cette nouvelle contre-performance au terme de la partie. Le vice-président lausannois est au micro de nos confrères de LFM.
J'ai l'habitude de dire que tant qu'on n'est pas en rouge sur le télétexte, il y a de l'espoir. Mais maintenant, c'est clair aussi que par rapport au contexte général, on le voit aujourd'hui et par rapport à ce qui s'est passé, avec tous ceux qui travaillent, qui croient encore au sein du club et qui font, entre guillemets, un maximum pour essayer d'inverser cette tendance, l'impact de ce genre de choses a des impacts extrêmement négatifs.
Au vu du contenu, Vincent, c'est très inquiétant. Il n'y a quasi rien. C'est très, très pauvre.
Non, mais alors ça, je veux dire, vous me permettrez de ne pas commenter. On est dans une situation difficile, dans une spirale négative. À nous maintenant d'inverser cette tendance. Et c'est sûr qu'on n'offre pas beaucoup de garanties. Mais c'est pas en se disant condamné qu'on va y arriver. Donc aujourd'hui, on n'est pas condamné. On n'est pas en rouge sur le télétexte et on doit se mobiliser.
Le prochain match de Lausanne est déjà prévu mercredi à Sion. Coup d'envoi à 18h.
L'actu en continu sur radiochablais.ch. La météo avec François Nicollier. Agencement de cuisine, dressing et menuiserie sur mesure depuis plus de 40 ans à Aigle et au Diableret. fnicollier.ch.
J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le soleil va continuer de briller pour ce lundi avec un mercure qui indiquera 8 degrés en pleine, 4 à 1000 mètres et 1 à 2000. Et la bonne nouvelle se poursuit demain puisque ce temps ensoleillé se poursuivra avec un mercure qui passera de moins 2 à 8 degrés en pleine, de moins 1 à 7 à 1000 mètres et de moins 2 à 2 à 2000 mètres. À noter tout de même pour demain soir l'arrivée de nuages élevés.
La météo pour les 6 prochains jours, radiochablais.ca.